Il y a certaines choses que je fais plus pour moi vraiment parce que je suis plus sur la fin de ma carrière, mais plutôt pour les prochaines générations, pour qu'elles se disent qu'elles, elles peuvent le faire, justement.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Alors c'est toujours un peu la même chose, nous les femmes, on les célèbre toute l'année, mais c'est quand même l'occasion de faire une déclaration d'amour à toutes celles, sportives ou non, qui ont été des inspirations, des rôles modèles, des idoles, et qui m'ont fait comprendre qu'on avait le droit de prendre notre place dans la société et le droit de vouloir que les femmes après nous soient encore plus libres de prendre ce droit. Et ça, notre invitée du jour l'a bien compris. Escrimeuse, fleurettiste pour être plus précise, Isaora Tibus a 29 ans et un superbe palmarès. Vice-championne du monde en 2018, 8 fois championne de France, elle est également qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Mais en toute honnêteté aujourd'hui, j'avais un peu moins envie de parler de sport que de conviction et d'engagement. Pouvoir porter un message et des valeurs quand on est une femme est notre droit. Et c'est ce droit qu'Isaora embrasse quotidiennement en prenant la parole sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre les discriminations raciales, ou la mise en avant du sport féminin, tout en menant des actions concrètes, en allant manifester à Los Angeles en soutien au mouvement Black Lives Matter, ou en créant son propre média, Essential Stories. Isaora est une femme, une athlète, mais surtout une citoyenne, qui a fait son devoir d'assumer pleinement qui elle est, pour changer les choses, et pour que celles après nous ne se posent plus la question de leurs droits. Eh ben, salut Isaora.
Salut.
Comment ça va?
Je suis bien, je suis contente d'être là.
Tu t'es fait un nouvel ami.
Exactement, Fanfan. Fanfan, ton chat, il m'aime beaucoup, j'adore.
Écoute, je suis super contente qu'on puisse enfin se rencontrer et enregistrer cet épisode, c'est trop cool. J'ai plein de petites questions à te poser. Ça va durer des heures et des heures, préparez-vous.
Asseyez-vous bien confortablement.
Exactement, voilà. Ouvrez vos oreilles et on est parti. Alors, ma première question, du coup, elle va peut-être être un peu particulière. Ton objectif l'année dernière, c'était de faire une médaille, en tout cas une médaille d'or aux JO de Tokyo. Il y a eu une pandémie entre-temps sur l'année 2020. Est-ce que l'année 2020, justement, elle a changé ta vision du sport et plus globalement, la vision que tu portes sur la vie, sur ta vie?
Oh, c'est une grosse question pour commencer.
On rentre direct dans le vif du sujet, il n'y a pas d'intro.
Alors, c'est vrai que l'année dernière, j'étais très bien. Et il s'est passé tellement de choses déjà dans ma carrière. Là, j'ai 29 ans, donc je suis plutôt vers un côté où je suis beaucoup plus mûre aussi dans ma pratique sportive, dans ma vision du sport, de l'escrime. Donc, quand ça arrive l'année dernière, je suis déjà qualifiée en fait déjà pour les Jeux. Mais il restait une dernière sélective en mars. Donc, on était vraiment dans le jus avec toute mon équipe. Il faut performer, il faut être au top. Et on était donc à 3 mois et demi des Jeux. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période où on pense que aux Jeux Olympiques. On se lève le matin.
C'est le but ultime.
Voilà, c'est ça. Donc, on se lève, on pense Jeux, on bouffe, on pense Jeux. Enfin, tout est un peu orienté autour de cet objectif. Mais bon, c'est vrai, sincèrement, que pour moi, la pandémie a clairement changé pas mal de choses, redistribué les cartes. Et puis, c'est vrai que je pense que, comme tout le monde, j'ai beaucoup appris sur moi pendant cette phase-là. J'ai commencé le confinement aux États-Unis. Donc déjà quand c'est reporté, déjà premier sentiment, je dirais qu'on sent que le sport devient un peu secondaire dans ce moment-là, puisque voilà, tous les événements sportifs sont annulés, les Jeux Olympiques, enfin pour nous en tant qu'Olympiens, les Jeux Olympiques c'est la valeur sûre, quoi. Ça arrive tous les 4 ans, à moins qu'il y ait une guerre,
ça se passe quoi.
Donc là, reporté à ce moment-là, on ne sait pas encore que ça va durer aussi longtemps, mais on sait que voilà, à ce moment-là, il n'y a pas le sport. Donc, l'athlète, qu'est-ce qu'elle devient à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on se concentre un peu plus sur la femme.
femme qu'on est, ce qu'on veut faire en dehors du sport, un peu, tu vas à 29 ans, penser à la reconversion, à d'autres projets qu'on a à côté. Et voilà, je dirais que oui, clairement, ça a un peu changé mon regard par rapport au sport. Et j'ai pris beaucoup de temps avec moi-même sur certains sujets, déjà personnellement, mais aussi extérieurement. Je pense qu'on en parlera, mais j'étais aux États-Unis pendant voilà, tout ce qui s'est passé autour du mouvement Black Lives Matter et pas mal d'autres choses où j'ai lancé Essentiel à ce moment-là. Ouais. Donc oui, clairement, mon rapport au sport a changé.
Bah, du coup, on va y venir assez vite, parce que c'est vrai que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, parce que tu as beaucoup pris la parole, tu t'es engagée pour des causes, l'une d'elles étant le sport féminin. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin chez toi de militer en faveur du sport féminin ?
Alors déjà, je pense que le sport féminin, c'est un sujet dont je parle depuis très longtemps.
Ouais.
Voilà, donc tous ceux qui me connaissent, ils n'ont pas été vraiment surpris au moment où c'est arrivé sur mes réseaux sociaux, puisque ça fait des années que j'en parle, puisque même à un moment donné, tu nous saoules avec le sport féminin. À l'époque où vraiment, on n'en parlait pas,
en fait.
Tu vois, donc c'est des choses qui me tracassaient depuis longtemps. Je déteste en fait l'injustice, c'est un truc qui me rend malade. Et en fait, dès qu'il y a des inégalités, des choses comme ça, il faut que j'en parle. Et à ce moment-là, ben, c'est vrai qu'il n'y avait pas les jeux et c'est un projet que j'avais depuis longtemps et je me suis dit, voilà, lance-toi, utilise un peu ta plateforme, utilise un peu ton expérience, ton vécu pour parler de ces sujets-là qui sont pour moi importants.
Comme tu le disais, tu as créé un média, on peut appeler ça un média, qui s'appelle Essentiel Stories, sur Instagram, que je vous conseille tous d'aller voir d'ailleurs et de suivre, où tu donnes la parole à des athlètes de haut niveau, en règle générale. Pourquoi tu as voulu créer ton propre espace de discussion et d'information, on va dire, créer cette plateforme-là ?
Alors, je pense que c'est venu progressivement, puisqu'en fait, pendant le confinement, j'ai commencé par faire des lives sur mon Instagram. Et ça a commencé vraiment avec des amis athlètes que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au sport. Donc j'ai eu Estelle Mosselli, ouais. Kristina Mladenovic, d'autres grandes athlètes comme ça. Et en fait, l'intérêt, c'était vraiment voilà, au moment où le live était un peu
à la mode.
Et que voilà, tout le monde était chez soi. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler de ces sujets-là. Et l'intérêt, c'était vraiment entre athlètes, d'avoir des conversations hyper chill, de parler des trucs dont on parle pas en général quand on est face à un journaliste ou pour un papier sportif qui nous demande pas forcément des questions sur la maternité ou des questions sur nos règles ou la performance féminine ou juste simplement en fait la place du sport féminin dans ce sport-là ou d'autres questions qui ont rien à voir, hein, la beauté, le lifestyle, plein de choses en fait que je trouvais qui étaient pas forcément abordées dans les médias sportifs en règle générale. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, en fait, tout simplement, je me suis dit, ben, c'est dommage, ce sont des lives, ça disparaît. Pourquoi pas créer un compte Instagram où on pourrait y retourner, où tout le monde pourrait avoir accès. Donc c'est vraiment parti de là. Et progressivement, j'ai eu des bons retours. Je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y avait la place en ce moment pour faire quelque chose comme ça. Ça pourrait aider le sport féminin, tout simplement, à créer un espace où des athlètes féminines discutent entre elles de sujets qui, je pense, en tout cas, enfin, à mon avis, sont inspirants et peuvent inspirer d'autres femmes.
Est-ce que tu sens qu'il y a un peu une sorte d'émulation en ce moment autour du sport féminin et que là, sur les dernières années, voire même la dernière année, les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'initiatives autour du sport féminin, ou finalement c'est un peu un grain de sable encore dans le désert ?
Non, je pense que tout ce qui est lié à l'émancipation de la femme en général, ce sont des années, hein, pour de construction, de déconstruction même, je dirais. Et donc non, moi je m'inscris un peu dans la suite de ce qui a été fait avant. J'ai eu aussi la chance de rencontrer plein d'athlètes féminines, par exemple Laura Flessel, ou des personnes aussi qui m'ont inspirée ou dont on a discuté ou qui m'ont permis de me rendre compte que oui, il y a quelque chose à faire. Il y a eu des choses qui ont été faites avant et qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc je pense que je m'inscris dans cette évolution-là, je suis très contente de remarquer que oui, en ce moment, c'est un sujet qui intéresse, dont on parle, que ce soit aux États-Unis quand j'étais, il y a des vrais débats, des vraies conversations sur le sujet et des actions mises en place. Et en ce moment, en France aussi, je sens que voilà, il y a de plus en plus d'athlètes aussi féminines qui en parlent, et puis même des athlètes masculins, des hommes qui ont envie aussi que ça progresse dans ce sens-là. Et voilà, donc on attend encore pas mal de choses, les médias, les investissements et tout ça, mais je trouve que oui, ça intéresse de plus en plus et je suis contente de voir l'évolution.
Tu disais juste avant, du coup, effectivement, tu vis entre les États-Unis, la France, tu es originaire de la Guadeloupe. Est-ce que tu trouves que les athlètes féminines, là on va faire le parallèle plus France-États-Unis, mais que les athlètes féminines ont une autre image aux États-Unis, ou en tout cas sont traitées différemment aux États-Unis qu'elles ne le sont en France ?
Alors déjà, en termes généraux, je dirais que le sport est traité différemment aux États-Unis qu'en France. Donc quand on est athlète aux États-Unis, il y a une vraie reconnaissance derrière et puis un vrai business sur la plupart des sports qui permet un peu d'être valorisé. Et je dirais qu'en tant qu'athlète féminine, il y a toujours des inégalités entre les hommes et les femmes. Forcément, quand on regarde le top, de toute façon, des personnes qui gagnent le plus, ce sont des athlètes masculins. Dans tous les cas, LeBron James n'est pas au niveau de Serena. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de role models. Et en ce moment, je pense qu'une Naomi Osaka, elle bouge beaucoup de choses en ce moment. Il y a un vrai intérêt, en tout cas, pour les athlètes féminines. Et puis les marques aussi, je dirais que les marques Nike, les marques dans l'équipement sportif, pas que les athlètes, sont intéressées de plus en plus au sport féminin parce qu'il y a un vrai marché. Je pense qu'ils ont reconnu que les femmes ont envie de faire du sport. Mm-hmm. C'est pas que le haut niveau, que les femmes ont envie de regarder aussi du sport. Et qu'il y a une grosse communauté. Donc je dirais qu'il reste encore des inégalités, mais même dans la façon de traiter l'information, il y a quelques différences quand même.
Ok, donc tu trouves qu'effectivement, ils sont, on va dire, plus avancés sur la question quand même aux États-Unis qu'on ne l'est en France ?
J'aime pas trop
genre de... c'est polémique, là, ce que je te dis, mais...
Non, j'aime pas trop faire ce genre de comparaison, parce que c'est vrai qu'on a eu des rôles modèles aussi, des Marie-Josée Pérec, de ce genre de... Enfin, on en a eu aussi en France, donc ça existe, mais je dirais que le fait que le sport aussi soit beaucoup plus médiatisé, valorisé aussi aux États-Unis, et que ces athlètes féminines, du coup, s'inscrivent aussi dans un système... qui économiques différents où elles sont bien accompagnées, voilà, enfin très jeunes elles vont être bien accompagnées, elles vont avoir un discours très précis sur le sport féminin. On parle beaucoup plus, par exemple, le sujet du cycle menstruel et de la performance, c'est quelque chose que j'ai entendu d'abord aux États-Unis avant d'arriver en France. Donc il y a certains sujets qui ont été abordés, le rapport au corps, par exemple Serena Williams, elle l'a exposé depuis très longtemps, cette idée que voilà, on peut avoir des muscles et toujours être féminine. L'équipe d'athlètes américaine, toutes elles valorisent vachement ce côté féminin. Elles arrivent soit avec un maquillage vraiment prononcé sur leur compétition, elles disent qu'elles peuvent assumer leur féminité et être athlètes aussi. Donc que ce soit dans la performance ou aux alentours, il y a pas mal de sujets qui sont très discutés, là où encore je dirais que la différence, il y a toujours des inégalités, mais les points sont abordés. Ouais. Voilà, s'il y a des inégalités, on en parle, ils sont dans les médias. Par exemple, le foot féminin qui a remporté plein de médailles, ils vont chercher cette égalité. Elles ont une performance au-dessus, elles ont un salaire en dessous des hommes, donc l'inégalité existe, mais voilà, elles vont en justice contre leur fédération, elles font en sorte que ça avance, et il y a beaucoup, beaucoup d'actions mises en place pour réduire ces inégalités.
Ouais. Tu parles souvent d'inspiration, c'est un mot du coup qui revient souvent, le côté rôle modèle. Est-ce que toi, à titre personnel, t'espères justement être un rôle modèle, inspirer les jeunes à se mettre au sport ou plus globalement à réaliser leurs rêves? Peut-être parce que toi, quand t'étais plus jeune, t'as manqué de rôle modèle, en fait?
Non. Tu sais, quand on est jeune, on se pose pas la question, en fait. Alors, je pense que moi, j'ai grandi en Guadeloupe, donc j'ai commencé l'escrime. Il y avait on était une grande famille, en fait. Moi, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai continué à Scream, c'est que j'étais dans un club hyper familial et il y avait beaucoup de garçons, du coup, qui ont réussi, mais il y avait aussi des filles. Et à ce moment-là, on avait... En fait, il y a aussi Laura Flessel dans mon sport qui a aussi beaucoup changé la donne.
C'est sûr.
Pour plusieurs raisons. Parce que c'est une femme et aussi parce qu'elle vient du Nil. Donc, nous, sur une petite île, il y a eu cette idée que... Même si on vient de loin, on peut y arriver. Donc en fait, quand on arrivait en métropole, on n'avait pas peur parce que ça a été fait avant nous. Donc c'est vrai que ça, j'ai eu justement la chance de l'avoir. Après, c'est plutôt en grandissant, en allant justement, j'ai fait ma première année en pôle espoir à Aix-en-Provence et après j'ai intégré l'INSEP à Paris. C'est plutôt là où on découvre petit à petit qu'il y a des choses qui sont pas normales ou qu'il y a un manque de représentation ou tout simplement que on nous considère pas de la même façon que le sport masculin. Donc ça a été vraiment plutôt progressif. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a certaines choses que je fais plus pour moi vraiment parce que je suis plus sur la fin de ma carrière, mais plutôt pour les prochaines générations, pour qu'elles se disent qu'elles, elles peuvent le faire, justement.
Reproduire finalement ce schéma que tu as eu toi avec Laura Flessel quand tu étais petite, qui t'a montré que c'était possible. Mm-hmm. Et du coup, effectivement, les nouvelles générations ne connaissent peut-être pas Laura Flessel, mais mm-hmm. du coup, ils vont peut-être connaître Isaura Tibus.
Oui, je l'espère. Je l'espère, oui.
C'est aussi pour ça, c'est dans cette optique que tu as créé ton propre camp d'escrime, je crois, l'année dernière, en Guadeloupe,
oui.
d'ailleurs. Mm-hmm. C'est toujours dans cette optique de transmission, de partage, d'inspiration.
Oui, alors c'est aussi quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et on me disait, non, mais attends la fin de ta carrière, tu auras le temps de faire tout ça, de revenir, faire des stages. Et c'est quelque chose que je voulais pas attendre. Je voulais vraiment, c'est quelque chose... Voilà, je viens de la Guadeloupe et ça me tenait à cœur de créer quelque chose... où je puisse vraiment transmettre mon expérience. Là, j'avais ramené avec moi une championne olympique, un champion du monde, des coachs vraiment avec une très forte compétence. Donc,
En escrime.
Okay. Donc en fait, l'idée, c'était pour les jeunes qu'ils aient la chance de rencontrer des athlètes de haut niveau, qui leur transmettent un peu ça. Donc c'était pas juste lié à moi, et aussi que les coachs aussi puissent discuter pour que, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir de bons coachs, et je pense que ça compte aussi. Et c'est vraiment cette idée de transmettre cet héritage, en fait, de l'escrime en Guadeloupe, puisque au final, on a eu beaucoup de Guadeloupéens qui ont réussi dans ce sport, étonnamment. Mmh. Et ce serait dommage de perdre ça, parce que je pense qu'on est bon, et j'avais justement envie de contribuer à ce cercle vertueux.
Est-ce que tu dirais finalement, en fait, que maintenant, tu dis que tu es sur la fin de ta carrière, mais bon, t'as que 29 ans, il y a encore quand même quelques années devant toi. Est-ce que tu dirais maintenant finalement que ton engagement est aussi important maintenant, limite, que tes performances sportives?
C'est comme si tout fait partie de moi. Ça n'a, y a, oui, enfin, je hiérarchise... Je peux pas choisir entre les deux. C'est-à-dire que, en fait, ça compte pour moi d'être une athlète performante. Quand je vais à l'entraînement, je me pose pas la question. Je m'entraîne vraiment pour être la plus forte possible. Après, mes engagements, mes convictions, ça fait partie de moi. Enfin, c'est qui je suis. Donc, oui, tout est connecté. Hein. Rien n'est vraiment. Je pense que c'est plusieurs choses qui font que, ouais, je suis moi. Je ne sais pas trop comment répondre différemment à cette question.
Non, non, mais il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à cette question. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a l'impression, en fait, que quand on était sportif, le rôle du sportif était un peu cantonné à fais des résultats dans ton sport. Mm-hmm. Et je vais le dire vulgairement, mais ferme un peu ta bouche sur mm-hmm. le reste. Tu vois. Et que maintenant, ça a vraiment évolué et qu'aujourd'hui, en fait, limite, c'est un devoir pour vous, les sportifs, de haut niveau, de véhiculer des valeurs, d'essayer de faire bouger les lignes, même sur des sujets de société. Est-ce que tu trouves que c'est le cas?
Oui, c'est clairement le cas. Notamment en France, on attend, en tout cas même dans tous les domaines de la société, que si on a une certaine expertise dans un domaine, on est obligé de rester dans cette case-là, dans cette boîte, et de pas forcément s'exprimer sur les sujets, sur d'autres sujets.
Oui.
Alors je trouve que c'est ridicule. Donc justement, comme tu me dis, ma performance sportive, ça, c'est je suis athlète, mais voilà, j'ai des convictions en dehors. Donc voilà, si j'ai envie de m'exprimer là-dessus ou pas, si j'ai un devoir, si j'ai envie de garder certaines choses pour moi, j'ai le droit. Donc moi, je pense que ça gêne encore. Souvent, je vois des commentaires passer, reste dans ton sport, concentre-toi sur ta performance, sur l'escrime, ce genre de choses.
Ah oui, tu vois vraiment des gens qui réagissent encore un peu virulemment.
Ouais, ça dérange, oui, je dirais, oui, clairement, ça dérange. Mais franchement, ça m'atteint pas, déjà. Et ensuite... je pense qu'il n'y a pas d'obligation non plus à véhiculer des choses ou pas en dehors de son sport. En fait, chacun choisit de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que ça fait partie de ma personnalité. J'ai vraiment envie d'avoir un impact sur la société qui puisse être positif. C'est une volonté de ma part. Et puis c'est des choses dont... Enfin, voilà, comme je dis, je suis une femme. Je suis une femme de couleur. Je suis sportive, mais voilà, j'ai beaucoup voyagé et j'ai envie d'apporter un peu ça par rapport à mes expériences et à mon vécu, et c'est tout.
Mais moi, je trouve que justement, plus de sportifs devraient le faire, en fait, parce que vous êtes des rôles modèles aussi et que je pense que ça touche au même titre que qu'elle est un acteur, un chanteur ou peu importe, vous êtes des images, enfin des gens publics et... Là, moi, je donne mon avis, on s'en fout.
Non, mais c'est intéressant.
Non, mais c'est vrai, tu vois, je trouve que c'est cool, moi, ça... Moi aussi, plus petite, j'aurais aimé qu'on prenne la parole sur des sujets et qu'on, en tant que sportif, vous puissiez dire c'est des sujets qui nous concernent aussi. Mm-hmm. Et qu'un sportif n'est pas qu'un sportif, comme un chanteur n'est pas qu'un chanteur. Enfin, on est des humains aussi à côté, on a des convictions. Et c'est ça aussi que je trouve chouette chez toi, c'est que t'as pas peur de les exprimer.
Ah, j'ai pas peur, mais ça me suis posé des questions des fois. C'est vrai que pourquoi aussi j'ai attendu aussi longtemps, parce que j'ai aussi mûri mes réflexions. C'est vrai que j'ai pris le temps vraiment de me poser et de savoir ce que j'avais envie de dire.
Ouais.
Donc je dirais pas que j'ai pas peur, parce que c'est vrai, on a toujours un peu peur de s'exprimer. Enfin, c'est juste que j'avais vraiment ce besoin de contribuer à quelque chose, de faire écho à des choses qui avaient besoin d'avoir un peu plus d'importance. Alors, c'est vrai que peut-être que ça change si c'est un athlète qui a une plus grosse notoriété, tout ça, mais c'est vrai que, en tant qu'athlète, on sait qu'on va parler à une plateforme qui a des gens qui nous attendent en tant qu'athlète. Donc,
ouais.
C'est délicat.
Tout à l'heure, le côté fait des résultats sportifs.
Exactement.
Et puis après,
C'est pour ça qu'on réfléchit souvent à deux fois. On dit est-ce que c'est juste ou pas. Et puis finalement, on dit pour moi, c'est juste. Voilà, pour moi, ce sont mes valeurs. C'est ce en quoi je crois. Donc, voilà.
C'est vrai que je lisais une interview de toi que tu avais donnée au mois d'octobre pour CNN, mm-hmm. où tu disais, tu déclarais dedans « I'm an athlete, but first, I'm a woman, I'm a black woman. Mm-hmm. » Je traduis pour les non-anglophones. Tu disais donc, je suis une athlète, mais en premier lieu, enfin d'abord, je suis une femme et une femme noire. Est-ce que pour toi, cette question de couleur de peau, elle est indissociable aussi de ton combat?
C'est indissociable que je suis une femme de couleur.
Certes.
donc oui, en fait, il faut contextualiser. C'est vrai que cette interview, elle se fait en mai dernier, lorsqu'il y a l'affaire George Floyd et que du coup, je vais manifester par rapport au mouvement Black Lives Matter. Mais pareil, c'est arrivé à ce moment-là, mais ce sont des sujets dont je discute depuis longtemps, parce que ça fait partie de moi. Donc, je viens d'une île qui a une histoire, et puis la France a aussi son histoire coloniale. Donc oui, ce sont des questions qui ont été autour de moi depuis toujours, et dont je m'instruis, j'essaye en tout cas, et sur lesquelles je discute. Donc à ce moment-là, j'avais besoin de prendre la parole sur ce sujet-là également.
Là, je vais. Alors, ça va peut-être un peu bizarre comme question. Je vais peut-être dire un peu un gros mot. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, être une femme noire dans un sport qui est. Tu disais qu'effectivement, il y a beaucoup de Guadeloupéens, par exemple, qui ont réussi dans l'escrime, mais c'est un sport qui est historiquement quand même blanc. Est-ce que c'est pas finalement une opportunité aussi pour toi de te faire entendre dans ton sport en tant que femme noire
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, je pense pas que ce soit une opportunité. Je pense plutôt que c'est une nécessité. Voilà, si on est dans une sphère où il manque de diversité, d'inclusion, c'est plutôt une diversité de le pointer du doigt, de comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc oui, en effet, l'escrime est historiquement blanc. voilà, européen à la base. Et avec l'évolution, c'est vrai que ça reste aussi un sport qui est élitiste, ouais. qui est vu élitiste. Donc il y a aussi cette considération un peu de classe sociale et qui coûte de l'argent économiquement à l'heure actuelle toujours. Donc c'est pas que historique, c'est un peu comprendre tout, tous les mécanismes qui font que ça reste encore fermé à l'heure actuelle et pourquoi il n'y a pas plus de diversité.
Merci. du coup, on l'a dit, t'es quelqu'un qui est extrêmement engagé, tu t'investis dans de nombreuses causes, mais tu utilises ton image aussi dans d'autres domaines. Est-ce que pour toi, en fait, finalement, maintenant, être un modèle, ça passe aussi, donc là, on revient sur l'aspect engagement et aussi l'aspect ce que tu fais à côté, tes photos, etc., ça passe aussi par l'aspect extra-sportif.
Je dirais qu'il n'y a pas d'obligation, mais... Clairement, aujourd'hui, surtout dans un sport comme le mien, ou même dans tous les sports, l'aspect visuel compte beaucoup. Les sponsors sont intéressés par l'image que tu véhicules. Donc oui, les gens nous connaissent aussi, ils vont directement checker
l'Instagram,
l'Insta, le Twitter et tout ça. Donc oui, on n'a pas d'obligation. Je pense qu'on peut très bien être un athlète très très fort et pas forcément être sur les réseaux sociaux, mais on le voit en tout cas à l'heure actuelle que c'est une façon aussi de communiquer. Que ce soit voilà, sur ces réseaux sociaux ou autrement. Donc moi, en tout cas, il y a ce côté des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où je suis aussi attirée par la mode et c'est vraiment un peu personnel, c'est pas que par rapport à la communication. Donc ce sont des sujets qui m'intéressent aussi et que tout simplement, je véhicule aussi, mais je pense qu'il y a pareil, il y a pas d'obligation.
Est-ce que tu penses aussi que ça peut permettre aussi peut-être à des jeunes filles ou des jeunes garçons, peu importe, de s'intéresser, enfin, une fenêtre sur ton sport par un autre sujet que le sport, en l'occurrence, qui est le lifestyle, la mode. Enfin, est-ce que ça ne bénéficie pas aussi à la visibilité de ton sport, finalement?
En fait, oui. Mais aussi, en fait, l'idée, pour moi, en tout cas, ce que ça nous permet de faire, les réseaux sociaux, c'est que, bon, il y a l'escrime. Déjà, c'est pas un sport très médiatisé, c'est pas un sport très connu. Donc, souvent, il y a souvent que des escrimeurs qui vont suivre de l'escrime. Mais, en tout cas, au-delà de ça, c'est pour moi, c'est de leur montrer qui est l'athlète, mais qui est la femme, qui est la personne autour de tout ça. C'est vrai que je m'entraîne beaucoup, mais je fais autre chose dans ma vie. Certains autres athlètes n'ont pas forcément cette envie de faire autre chose. Moi, ça fait de nombreuses années. En fait, déjà, j'ai toujours eu besoin de cet équilibre en dehors du sport. Ça remonte à très longtemps puisque j'ai toujours voulu faire des études à côté. On te propose, quand tu arrives à l'INSEP, de faire tes études dans l'INSEP ou en dehors de l'INSEP. C'est quelque chose où j'ai toujours voulu faire mes études en dehors de l'INSEP. Moi, j'ai fait une licence d'éco à la Sorbonne et après, j'ai été en école de commerce à l'ESCP. Donc, j'avais toujours un peu cette chose qui me permettait d'un peu de faire, de relâcher la pression, de faire cette soupape de décompression où j'étais pas à 100% dans le sport. Et voilà, en fait, j'ai toujours eu besoin de faire autre chose à côté du sport. Donc, ça fait partie de moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai toujours aimé la mode. mais ça a pas mal évolué puisque forcément, je commence un peu à. Sur une île en Guadeloupe où le style c'était complètement différent. Et après, j'ai vécu 8 ans à Paris, donc j'adore le style parisien. C'est quelque chose aussi que j'ai appris puisque j'avais pas du tout le style parisien. Quand j'arrive, on me débarque à 17 ans. Moi, genre, je voulais juste que ce soit pratique, quoi. Avoir une doudoune, 3 doudounes sur moi, c'était parfait, quoi. Pas avoir froid. Et puis après, non, voilà. Donc j'avais envie d'avoir du style. Puis après, j'ai vécu à LA, à New York, en Italie. Donc ce sont quand même des endroits où la mode sont assez présente et j'ai toujours voulu vraiment comprendre un peu ce côté culturel qui est autour de ça, où on peut être quelqu'un d'autre et en même temps on peut être soi-même juste avec un vêtement, se sentir plus en confiance. Il y a pas mal de choses qui entourent tout ça et qui m'ont beaucoup attirée.
Pour moi, en fait, t'incarnes un peu la femme moderne. Quelle est déjà toi ta définition d'une femme moderne et est-ce que tu te considères comme une femme moderne?
Oui, je me considère comme une femme moderne parce que j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément évidents, là où on ne m'attendait pas nécessairement. Je n'ai pas eu peur de le faire même quand on m'a dit non. Bon, ça, c'est surtout dans ce genre de choses où je me reconnais dans la femme moderne, où je pense qu'il est temps que chaque femme prenne conscience qu'elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Parce qu'on le dit depuis des années, il y a eu beaucoup de progrès. Mais des fois, on a encore un peu peur, ou on n'ose pas, ou on s'auto-censure, ce genre de choses. Et je pense que, même si ce n'est pas évident, c'est un combat un peu de tous les jours, d'avoir confiance en soi et de pas se battre, mais en tout cas de travailler pour obtenir la place qu'on mérite dans la société. Donc dans ce sens-là, oui, je me considère comme une femme moderne.
Est-ce que tu as une inspiration, une idole, un rôle modèle, on en parlait tout à l'heure, qui pour toi incarne, alors peut-être pas la femme moderne, mais en tout cas vraiment cette icône?
J'en ai.
T'as le droit d'en citer plusieurs. On va pas.
Non, je sais pas. Après, des personnes très inspirantes, Michelle Obama. Après, des Françaises aussi. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des parcours aussi qui sont beaucoup mis en avant. Mais même dans les jeunes actrices, Zendaya, je trouve que c'est une actrice qui aussi utilise sa plateforme pour aider des gens, faire des choses qui sont positives pour la société. Donc après. Il y a trop de femmes qui se battent à l'heure actuelle, même maintenant, pour en citer que quelques-unes. Donc je suis juste fière d'être dans une période où il y a eu autant de femmes avant moi qui ont pu faire tout ça et où j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime.
Carrément. J'aimerais bien juste, alors du coup on va refaire un petit focus un peu sportive pour le coup, repartir sur un focus Jeux Olympiques. Toi t'as eu beaucoup de médailles dans ta carrière, t'en as encore jamais eu sur tes deux participations aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Tokyo?
Tokyo 2021 du coup. Je pense que ce sont des Jeux très très spéciaux. Pour l'instant c'est encore un peu flou. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils vont avoir lieu ou pas. C'est des jeux, en tout cas, où ça aura mis à dure épreuve pas mal d'athlètes, parce qu'il a fallu quand même s'entraîner un an de plus pour ces jeux-là. Quand bien même, ça reste une opportunité incroyable, parce que comme un sport dans le mien, où les Jeux Olympiques, on nous voit à la télé tous les 4 ans, parfois 5. c'est très important. C'est un événement unique, même s'il sera à huis clos, ce sera vraiment quand même exceptionnel, parce que l'investissement psychologique, physique, vraiment qu'on met dedans, c'est énorme, en tout cas pour une personne, en tout cas pour moi. Ça représente beaucoup. Après, ce seront mes troisièmes Jeux Olympiques. Donc ça arrive à un moment donné où je suis beaucoup plus mûre, et ça arrive à un moment donné où je me sens encore mieux dans ma carrière, où j'ai eu des titres dernièrement. Donc c'est aussi important pour moi s'ils arrivent, parce que je pense que je pourrais vraiment m'exprimer et avoir une chance de médaille.
Pleinement, plus que sur les deux derniers.
Oui, après, les jeux, c'est assez particulier parce que tout est toujours possible. Mais oui, mes premiers jeux, je suis arrivée, j'avais 18 ans, 19 ans, je ne sais plus. 19 ans, je crois. Et oui, j'étais jeune, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, et je n'ai pas eu de médaille, mais ça m'a donné faim pour la suite. Après Rio, j'étais beaucoup, beaucoup mieux, et puis j'ai fait quart de finale, je suis passée à deux touches de la demi-finale, donc j'étais très déçue, mais je n'avais pas de regrets, parce que j'avais vraiment fait tout ce que je pouvais pour y arriver. Et puis, au final, cette défaite a conditionné pas mal de choses dans ma vie. Le fait d'avoir perdu, j'ai fait des choix que j'aurais pas fait. Je suis partie à Los Angeles, à New York, j'ai changé de coach plusieurs fois. Ça m'a permis vraiment de me remettre en question et d'avoir des expériences de malade après. Donc, je suis reconnaissante pour cette expérience. Et maintenant, je vais à Tokyo où, la dernière compétition avant le confinement, je la gagne. Donc, c'est une dynamique complètement différente.
Si. Je n'espère pas, mais dans l'optique où c'était complètement annulé, comment tu le ressentirais, toi? T'essaies de pas trop y penser.
Honnêtement, alors ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est très honnête. Je pense que il y aurait plusieurs sentiments. Ce serait mitigé, mais la première, ce serait un peu de soulagement.
D'accord.
Parce que c'est dur de s'entraîner en ce moment. Nous, l'escrime, il n'y a pas eu de compétition depuis un an. Donc, on se dit, on va peut-être avoir une seule compétition avant les Jeux Olympiques. Ouais. Donc, ce n'est pas une année olympique normale. Donc, une seule compétition en un an pour se préparer pour la compétition la plus importante depuis 5 ans, c'est délicat. Et bien sûr, après, une grosse, grosse, grosse tristesse et une déception, parce que tellement de choses investies de ma part, en tout cas, et je pense pour d'autres athlètes, pour cet objectif unique que ouais, c'est comme ça n'a pas de sens, mais une rupture avec quelqu'un que t'as jamais rencontré. Mais non, je sais pas, ce serait vraiment assez douloureux émotionnellement. C'est pour ça d'ailleurs que enfin moi j'ai continué mon suivi psychologique pendant tout le confinement. J'ai fait mes séances avec ma psy Myriam Salmi, parce que je pense que si elle n'était pas là, ça aurait été une expérience complètement différente. C'était dur.
Bah ouais, tu m'étonnes. Et comment tu fais quand c'est ton métier, parce que c'est quand même ton métier d'être sportive, pour continuer d'aller au travail tous les jours, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est ça, surtout comme il y avait pas de date, il y avait rien à ce moment-là. Donc je sais, il y a d'autres sports qui ont recommencé les compétitions, mais vraiment nous dans notre discipline, c'était très très délicat. Donc c'est vraiment pour ça que je suis revenue à l'INSEP, parce que j'avais en fait, enfin l'INSEP c'est un centre olympique, et j'avais vraiment besoin de l'encadrement un peu pour un peu oublier ce qui se passait autour, vraiment faire abstraction, un peu comme rentrer dans une bulle et me concentrer que sur le sport. Parce que en fait, pendant ces derniers mois, j'étais à New York, je suis rentrée en Guadeloupe parce que j'en ai eu besoin à un moment donné, parce que travailler. En fait, je suis revenue à Paris en septembre et on devait avoir une compétition en octobre, elle a été annulée. Puis après, on devait avoir une compétition en novembre, elle a été annulée. Et à ce moment-là, je me dis non, je rentre chez moi. Parce que j'avais besoin de me ressourcer à ce moment-là.
Le soutien de ta famille.
Exactement. Et c'est quelque chose, au final, mine de rien, dont je suis vachement reconnaissante, parce que j'ai jamais eu le temps de rentrer aussi longtemps chez moi après autant d'années de saison sportive. On n'a jamais un mois pour rentrer chez soi.
Bah ouais.
Et c'est la première fois où je reste autant, enfin c'est plus chez moi, mais autant chez ma mère, en famille, tout simplement, avec ma grand-mère, tout le monde. Et c'était des moments précieux, quoi. Même s'il y a pas mal d'incertitudes qui étaient autour. Et comment on fait pour aller s'entraîner quand même? Je dirais pas que j'ai trouvé le remède magique,
la
parce
solution.
Que justement c'était assez dur, mais voilà, avec ma psy, on s'est reconcentré sur des objectifs un peu plus petits ou des objectifs qu'on avait mis de côté parce que on doit vraiment se concentrer par exemple sur les jeux, que sur ses points forts, ce genre de choses, être vraiment atteindre un niveau optimal de ce qu'on sait faire. Mais il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire, enfin, je suis pas souple, il y a pas mal de choses, enfin j'avais pas mal de pépins physiques. J'ai de l'arthrose au genou, la vieillesse. Mais du coup, voilà, des choses, j'ai pu me concentrer sur ces blessures-là qui traînaient depuis longtemps. Donc, c'est un peu, trouver une façon de s'adapter.
C'est marrant parce que quand on t'écoute, en fait, on a l'impression que là, sur la dernière année, ça a été un mélange de superbe bonheur. Mm-hmm. Retrouver ta famille, d'être partie, t'étais à Los Angeles aussi avec ton compagnon. Mm-hmm. Et de moments, un peu de détresse où t'as plus d'objectifs vraiment, en tout cas de compétition, donc que psychologiquement c'est difficile à affronter. Et c'est très marrant parce que quand on parle, on a vraiment ce sentiment de ambivalence, joie extrême et tristesse.
Ouais, je pense que c'est ça.
Ça résume un peu l'année.
Ouais. Exactement, je pense que c'était j'ai eu pas mal d'émotions, j'ai eu vraiment, et comme je bougeais partout à différents endroits, c'est vrai que je me suis jamais vraiment posée et tout a été vécu de façon assez intense pour moi. Donc mais tu l'as bien résumé, tu as bien capté, c'était vraiment ça.
Et pour revenir sur ta carrière, mais est-ce que tu as l'impression là aujourd'hui à ce moment T d'avoir réussi ta carrière dans le sport, je parle, hein, uniquement pour le moment?
Tout est relatif par rapport à la réussite, mais en tout cas, d'un point de vue personnel, je suis satisfaite, oui, de ce que j'ai fait. Et même, je dirais même que j'ai une médaille ou pas aux Jeux Olympiques, je suis satisfaite de
ce que j'ai. Ça changera pas grand-chose,
non,
finalement.
Enfin, ça changera le fait que je me serais entraînée et que du coup, j'aurais pas vraiment eu ce que je voulais à ce moment-là. Mais ça changera pas tout ce que j'ai fait, justement, pour y arriver. Parce que je sais ce que j'ai mis dedans et j'ai mis tout ce que j'avais. Donc, je sais que je pouvais pas donner plus. Et c'est pour ça que je dis même à Rio où j'étais convaincue que je pouvais l'avoir et je l'ai pas eu, j'ai pas de regrets. Voilà. C'était ça, c'est très, très important pour moi dans ma carrière de pas avoir de regrets sur ce que j'ai fait. C'est pour ça que quand je suis partie, j'ai quitté le système et tout, c'était très difficile et il y a eu des moments très compliqués, mais je suis très très heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Et puis mes décisions m'ont prouvé que voilà, je pouvais y arriver. Après ça, j'ai eu des médailles mondiales, j'ai eu beaucoup de médailles sur les Coupes du Monde internationales. Donc on peut toujours avoir plus. Et je pense que c'est la même chose dans la vie, on peut toujours demander plus, on veut plus. Mais oui, si on se pose un moment, si je dois parler à la petite qui était en Guadeloupe et tout ça, et elle, c'est elle qui me parlerait, qui me dirait waouh, j'imagine même pas que tu pourrais, qu'on fera tout ça, quoi. Donc je suis contente.
C'est beau. Mais c'était marrant parce que quand on t'écoute aussi, on a l'impression, contrairement peut-être à d'autres sportifs ou sportives, que tu ne nourris pas de frustration. Mmh. C'est vrai que t'es, non, mais c'est vrai que t'es plutôt... C'était plutôt dans le positivisme et que justement tu te satisfais de ce que t'as, et je trouve que c'est un discours qu'on a finalement en fait pas tant que ça dans le sport.
Je veux pas non plus dire que je suis tout le temps positive, ouais. Hein. Ce serait mentir sur la marchandise. Non, mais en tout cas, j'ai beaucoup de réflexions. Je pense que c'est aussi, j'ai des grosses phases d'introspection, des grosses phases émotionnelles aussi. Par exemple, quand il y a eu toute cette phase Black Lives Matter, j'étais dans mon lit, je pleurais. Ou bien même quand je perds, c'est sûr que je vis la chose de façon très, très émotive. Je suis très déçue quand j'ai des échecs sportifs. Ça, c'est indéniable. Par contre, j'essaie justement d'apprendre de ces échecs. Je pense que c'est ça que le sport m'a donné. C'est que de toute façon, si tu veux devenir meilleur, tu dois savoir pourquoi tu as perdu et ce que tu peux faire de mieux. Donc, c'est dans cette optique-là que je dirais que j'essaie d'être positive. Mais oui, bon, ça m'arrive quand même d'être triste, déprimée et tout ça. Mais en tout cas...
Moi, je suis déçue, moi, je pensais que tu étais surhumaine.
Non, je ne peux pas laisser dire ça. Il fallait que je dise non. Non. Et puis, ceux qui me connaissent et qui comptent, ils font... Non, mais par contre, oui, je suis optimiste quand même. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que, par exemple, les gens s'engagent aussi. S'il n'y avait pas d'espoir d'un monde meilleur, on ne ferait pas en sorte de contribuer à un changement. Donc oui, au fond, je suis une optimiste quand même.
Et comment tu l'imagines, là, la suite de ta carrière ?
Oula. Tokyo 2021, Paris 2024, ce sont les deux gros objectifs.
Ok.
Et sportifs en tout cas. Et puis après, je pense que je peux pas dire avant, mais je pense que j'aurais bien vécu tout le sport de haut niveau, tout ce que j'avais envie de faire.
Et tu le mettras de côté pour de nouvelles aventures ? T'as déjà des idées un peu de comment tu veux évoluer, parce que encore une fois, t'es sur beaucoup de fronts différents, donc on peut imaginer qu'il y a plein d'autres opportunités qui s'offrent à toi, qui s'offriront à toi, qui s'offrent déjà à toi, mais qui s'offriront à toi par la suite. Est-ce qu'il y a des choses vraiment que toi tu veux réaliser une fois vraiment ta carrière sportive clôturée?
En fait, je réfléchis pas comme ça justement. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais
maintenant.
Donc j'ai pas envie d'attendre d'arrêter ma carrière pour commencer quelque chose. Donc, j'ai des projets en cours. Je suis concentrée là-dessus et chaque projet me permet d'apprendre un peu plus sur moi et de ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Mais c'est vrai que je suis sur pas mal de fronts en ce moment.
C'est bien. Et dans le futur, alors là, bon, c'est une question difficile, mais dans le futur, tu voudrais que les gens se souviennent de toi. Pourquoi ?
Oh là là. Qu'est-ce qu'ils diront à mon enterrement, c'est ça ?
Ça avait bien commencé cette interview et finalement ça finit mal.
C'est surtout les personnes qui sont autour de moi, en tout cas proches, où j'essaie vraiment de construire. Enfin, le relationnel pour moi compte vachement, donc j'espère être une bonne amie, une personne intéressante, une bonne collègue, une bonne. Enfin voilà, quelqu'un qui essaie de faire en sorte que les choses se passent bien, tout simplement. Après, c'est vrai que les projets que je mets en place, c'est pour qu'il y ait un impact dans la société. Donc j'aimerais qu'ils disent philanthrope. Une philanthrope, Isaura Tibus, non, je sais pas. Mais oui, qui aura essayé de laisser un impact positif dans le monde et qui était juste une personne heureuse. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir continuer à vivre des émotions, des expériences comme ça avec des gens que j'aime, tout simplement. Tout simplement.
Et si on te donnait un micro là maintenant qui diffuse ton message à tous les gens sur cette terre, t'aurais envie de dire quoi ?
De s'aimer soi-même, parce que ça aide à aimer les autres, à avoir de la compassion envers les autres, de la tolérance. Donc au final, je pense que c'est ça qui empêche les gens de s'accepter, c'est de pas forcément s'aimer, pas forcément aimer les autres. Et parce que voilà, il faut juste accepter... s'accepter soi-même, s'accepter, je sais pas, je bug sur la question, c'est une grosse question.
Ouais, je sais, ouais, c'est un peu un truc, c'est un peu une question piège.
De fin d'interview.
De fin d'interview. Où on balance les espèces de sujets de l'humanité. Comment sauverais-tu la planète si tu pouvais ?
Non, mais oui, c'est ça. ça, c'est s'aimer, apprendre à se connaître et faire ce qu'on aime. Voilà, tout simplement, dans le respect d'autrui. Moi, c'est un peu mon mantra, tout simplement. Et puis voilà, manger vert, faites attention, buvez de l'eau, c'est important.
faites du sport.
Et puis voilà quoi.
Ok, et on va finir avec les deux dernières questions qu'on pose à toutes nos invitées. Mm-hmm. Petite question, on va dire souvenir. Si tu avais un souvenir de sport qui était marquant pour toi, alors c'est un souvenir que tu as pu vivre ou un souvenir que tu as pu voir. Mm-hmm. Si tu devais en choisir un, tu choisirais lequel et pourquoi ?
Moi, je vais rester sur moi, là, se concentrer. Non, puisque c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Donc, c'est forcément ma médaille d'argent au championnat du monde de Wushu. Donc, c'est vrai que c'est assez bateau parce que c'est une victoire. Mais c'est aussi parce qu'elle vient après une année très difficile. C'est l'année où je quitte Paris et où je fais tous ces choix. Et en fait, j'avais zéro résultat toute l'année. Et j'avais beaucoup de pression de la fédération, enfin tout autour. Et c'est au moment donné où je lâche prise et où je fais vraiment cette compétition juste pour moi. Et ce matin-là, je me dis, tu fais comme si c'était tes premiers championnats du monde. Donc un peu la gamine qui est contente d'arriver et comme si c'était les derniers, pour avoir aucun regret. C'était, tu te bats sur chaque touche et tant que le match n'est pas fini, ben tu n'abandonnes pas. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. J'étais menée à un moment donné 14-6, je crois, et je gagne 15-14. Et du coup, oui. Donc c'est vraiment de très bons souvenirs parce que je me suis vraiment arrachée sur cette compétition. Donc je suis assez fière de celle-là.
Tu peux. Et dernière question, donc du coup notre championnat, aussi, ça y est, je pars en vrille. Notre podcast s'appelle Championne du Monde. Si tu devais donner ta définition de ce qu'est une championne, tu dirais quoi ?
Alors c'est quelqu'un qui s'écoute, qui se connaît, qui fait tout pour y arriver, qui prend pas un nom pour une réponse. Puis après moi aussi ma définition personnelle, c'est qui essaye aussi de rendre ce qu'on lui a donné, rendre à la société, inspirer des jeunes. Je pense que c'est important. À l'heure actuelle, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit dans notre interview, de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent y arriver aussi.
Parfait. Et ben, on se quittera sur ces bons mots.
Voilà.
ça résume effectivement plutôt bien, je trouve, toute l'interview. Donc c'est parfait. On va se quitter là-dessus. Je te remercie vraiment énormément. Parce que c'est chouette aussi d'un point de vue extérieur de rencontrer des athlètes qui n'ont pas peur de s'engager, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent ou ce qu'ils pensent et c'est agréable et je trouve que c'est important aussi de pouvoir passer ces messages là et effectivement il y a des gens peut-être qui ne seront pas d'accord mais en tout cas d'avoir cette liberté de le faire. Et c'est chouette et du coup voilà, je tenais à te remercier aussi parce que c'est inspirant pour des gens, pour les gens lambda, pour nous, population, d'avoir aussi des exemples comme toi. Donc voilà, je tenais à te le dire.
Merci beaucoup, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup.
merci beaucoup Isaora et puis plein de bonheur et on espère que ces JO auront lieu et que tu ramèneras une médaille.
Mais je voudrais dire aussi que ce que tu fais, ça a été aussi inspirant pour moi. Donc merci aussi pour ce que tu fais, c'est important et ça compte pour ce qu'on essaye de faire.
C'est gentil, c'est ça, tout dans la même direction.
Exactement.
Merci beaucoup.
Cool.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.